Tout de suite, le journal avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons ce journal avec l'annonce la nuit dernière de la mise en examen de 4 policiers après le passage à tabac et les propos racistes proférés à l'encontre du producteur Michel Zecler dans cette affaire qui électrise par ailleurs le débat autour des violences policières et de la loi sécurité globale.
Les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes, les dits EHPAD, devraient être vaccinés en priorité contre le Covid-19.
Oui, c'est du moins ce que préconise ce matin la Haute Autorité de Santé, et ce alors que le gouvernement doit lui présenter cette semaine sa stratégie vaccinale.
L'actualité à l'étranger et direction Londres tout d'abord.
Une enquête publique doit s'ouvrir aujourd'hui dans la capitale britannique pour déterminer le rôle joué par la pollution de l'air dans la mort d'une fillette, une affaire susceptible de créer un précédent. Et puis nous nous rendrons également au Liban après que l'assassinat attribué à Israël d'un éminent physicien nucléaire iranien dont les funérailles se tiennent aujourd'hui a réveillé des craintes au sein du Hezbollah. Enfin, c'est aujourd'hui que doit être annoncé les lauréats doivent être annoncés les lauréats du Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires, mais aussi du prix Renaudot. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Juste, on vient d'apprendre le lauréat du Goncourt. L'annonce vient d'être faite par le jury du Goncourt par Zoom, puisque c'est comme ça que le prix a été annoncé cette année. C'est Hervé Le Tellier pour son roman L'Anomalie chez Gallimard. Il était un peu le favori de cette course. On en parle avec vous, Thomas Cluzel, dans quelques instants.
Son visage ensanglanté est devenu à lui seul l'incarnation de la vive inquiétude exprimée ces derniers jours par les défenseurs des libertés publiques. 8 jours après les hurlements de douleur de Michel Zecler passé à tabac par des agresseurs portant l'uniforme de la police nationale, les 4 agents incriminés dans l'interpellation du producteur de musique ont été mis en examen la nuit dernière. 2 ont été écroués et 2 autres placés sous contrôle judiciaire. Alors l'enquête, rappelons-le, avait été ouverte mardi dernier et on peut considérer, Florence Turm, que tout est allé très vite.
Très vite, effectivement, comme le souhaitait le procureur de la République de Paris. Dans une rare déclaration publique, Rémy Heitz avait déclaré suivre personnellement le dossier jeudi, après l'émoi provoqué par la diffusion des vidéos sur Internet. L'enquête visant les policiers ayant été ouverte 2 jours plus tôt, et celle visant au départ Michel Zecler pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, classée sans suite. Le procureur va d'ailleurs tenir une conférence de presse hier après-midi pour détailler les principaux éléments des investigations réalisées par l'IGPN, la police des polices. Au cours de leur garde à vue, les 3 principaux mis en cause ont fini par admettre que les coups portés n'étaient pas justifiés et qu'ils avaient agi principalement sous l'effet de la peur. Ils ont invoqué la panique provoquée par le sentiment d'être coincé dans l'entrée du studio de musique face à un homme qui se débattait, mais niait avoir tenu des propos racistes alors que le producteur de musique affirme qu'ils l'ont traité de sale nègre. Ils réfutent également le caractère mensonger du procès-verbal qui leur vaut pour 3 d'entre eux, cette mise en examen pour faux en écriture publique, en plus des violences volontaires qui leur sont reprochées, il faut savoir que c'est un crime passible des assises. Le parquet avait également demandé le placement en détention des 3 policiers en question afin d'éviter tout risque de concertation entre eux et de pression sur les témoins. L'audience devant le juge des détentions et de la liberté s'est achevée à 4h30 ce matin et 2 des policiers écroués. L'information judiciaire ouverte et confiée à un magistrat instructeur va maintenant suivre son cours.
Alors évidemment, on imagine que ces mises en examen pour violence vont rendre d'autant plus compliquée la mission du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur lequel comptait pourtant Emmanuel Macron pour se réconcilier avec les forces de l'ordre, celui qui avait fait de la défense des policiers sa priorité dès son entrée en fonction l'été dernier, se retrouve être aujourd'hui la cible des contestataires. Samedi dernier, ils étaient des dizaines de milliers à défiler pour protester contre les violences policières et le racisme, sans oublier bien sûr le texte de loi sécurité globale et plus particulièrement sa mesure phare qui prévoit de restreindre la possibilité de filmer les forces de l'ordre. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Et c'est donc dans ce contexte, Pierre, en pleine crise politique autour de la proposition de loi sécurité globale, transformée en bourbier pour le gouvernement qui cherche une porte de sortie, que le ministre de l'Intérieur doit se retrouver aujourd'hui face aux députés.
Oui, ce soir, Gérald Darmanin sera entendu par la commission des lois de l'Assemblée sur les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre exercent leur mission depuis la mi-novembre. C'est le rôle des parlementaires. Ils exercent là une mission de contrôle de l'action du gouvernement. Le ministre devra donc répondre aux accusations de violences policières relancées depuis l'évacuation d'un camp de migrants place de la République jusqu'au passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler. Gérald Darmanin se retrouve donc au centre de toutes les crispations, mis en difficulté, accusé par la gauche d'apporter un soutien inconditionnel au syndicat de policiers, sentiment que relayent des députés de la majorité, mais il se retrouve également sous la pression de la droite, qui pourrait lui reprocher un certain laxisme dans l'exercice du maintien de l'ordre s'il venait à reculer. Alors ce soir, il lui sera certainement demandé de réformer l'IGPN, la police des polices, pour qu'elle puisse mener des enquêtes en toute impartialité, comme il pourrait lui être demandé le limogeage du préfet de police de Paris. Gérald Darmanin devra donc montrer qu'il est l'homme de la situation dans un contexte politique particulièrement tendu depuis l'examen de la proposition de loi sur la sécurité globale.
Et s'agissant du fameux article 24 qui prévoit donc de pénaliser la diffusion malveillante d'images de policiers, le sujet a fait l'objet, Pierre, d'une réunion hier après-midi à Matignon entre le Premier ministre et plusieurs dirigeants de LREM. Le problème, eh bien, c'est que la majorité est aujourd'hui divisée. Elle ne peut pas se permettre de se sentir désavouée après avoir voté le texte. Il ne faudrait pas non plus donner le sentiment aux policiers qu'on les abandonne. D'où la difficulté aujourd'hui du chef de l'État d'apaiser une situation qui mobilise par ailleurs jusqu'à ses électeurs de 2017 à qui il avait fait la promesse d'un État fort.
Ce que nous avons proposé et voté n'est pas satisfaisant. Il faut revoir notre copie. Ce constat, il est fait par la députée LREM Yael Braun-Pivet, présidente de la commission des lois à l'Assemblée. Constat qui fait suite à l'adoption de l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale et qui devient comme un boulet pour le gouvernement. Texte qui a cristallisé, vous l'avez dit, la mobilisation samedi dernier lors de la marche des libertés. Et l'élément qui rajoute un peu plus de tension et de crispation, c'est cette proposition de l'exécutif la semaine dernière d'installer une commission indépendante pour réécrire l'article 24. Mauvaise idée, les parlementaires avec à leur tête les présidents de l'Assemblée et du Sénat y ont vu comme une manœuvre pour contourner leur action, car le texte a été voté la semaine dernière en première lecture à l'Assemblée et cela a créé un malaise jusque dans les rangs de la majorité, le Premier ministre étant obligé de déminer le terrain dès hier en réunissant les cadres de la République en marche. On le voit, la pression est forte sur Gérald Darmanin et sur le gouvernement, preuve que l'on cherche une sortie de crise en ce moment, un apaisement, eh bien c'est Emmanuel Macron qui réunit le Premier ministre, le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur en ce moment, mais aussi le chef de file des députés LREM, le chef de l'État qui, dans un message posté sur les réseaux sociaux dès vendredi, invitait le gouvernement à faire des propositions pour réaffirmer le lien de confiance entre la police et la population.
Merci Pierre Neveu. Un nouveau désaveu pour l'autorité de l'exécutif. Hier, le Conseil d'État lui a ordonné de suspendre la règle qui limite à 30 fidèles l'accès aux offices religieux afin, je cite, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté d'exercice du culte. C'est la deuxième fois en 6 mois que la plus haute juridiction administrative du pays contraint ainsi le gouvernement à revoir à la baisse les restrictions imposées à la célébration de culte en raison de la crise sanitaire. Le Conseil d'État a donné 3 jours au gouvernement pour revoir son dispositif. Dans le cadre du dernier allègement, les commerces dits non essentiels ont pu rouvrir leurs portes ce week-end. Une réouverture plutôt timide et notamment dans les grandes villes au profit des magasins de banlieue ou de campagne. Alors peut-être les manifestations de samedi dernier organisées partout en France peuvent-elles offrir un début d'explication? Reste que la tendance, Thomas Larabi, pourrait être plus profonde et redistribuer les cartes à moyen terme.
Oui, c'est en tout cas le constat de l'étude Nielsen sur ce qu'elle appelle les nouveaux centres de gravité du commerce. Si les périodes de confinement ont évidemment modifié les habitudes d'achat, celles-ci semblent promises à durer. En effet, un Français sur trois a fait ses achats dans un nouveau magasin au mois de septembre, c'est-à-dire entre les deux confinements, avec un transfert significatif des ventes alimentaires des zones les plus urbaines vers les zones moins peuplées. Et le télétravail amené à se répandre est une des principales causes de ce changement, selon Philippe Moati, professeur d'économie à l'Université de Paris Descartes.
On n'a pas la même approche du territoire lorsqu'on télétravaille et lorsqu'on se déplace tous les jours pour aller au travail, notamment quand on se déplace en voiture pour aller au travail, parce qu'on sait que les courses sont souvent réalisées dans la trajectoire de mobilité du quotidien. Donc si on reste à la maison, eh bien logiquement, on va faire des achats autour du domicile. Et d'autant plus que quand on reste à la maison, ça fait souvent un repas de plus. Donc ça va changer la ligne de partage entre la restauration collective et la distribution alimentaire. Et dans la distribution alimentaire, ça va modifier sa géographie au profit des concepts qui se trouvent à proximité du domicile des gens. Et donc le paysage commercial d'après sera malgré tout différent du paysage d'avant, et probablement avec comme vainqueur deux extrêmes dans le spectre: le e-commerce alimentaire tenu par des gros acteurs de l'économie de la distribution, et à l'autre bout des petits acteurs du commerce de proximité, du direct producteur, des circuits courts.
Avec une possible conséquence, selon l'étude Nielsen, les grandes enseignes vont devoir s'adapter et elles pourraient abandonner des magasins historiques dans les grandes villes pour en construire de nouveaux dans les zones périurbaines.
Qui vacciner en priorité? La Haute Autorité de Santé présentait ce matin ses recommandations, alors que le gouvernement doit lui présenter cette semaine sa stratégie vaccinale, nouvelle étape pour tenter de mettre fin à la pandémie de Covid-19. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Sans surprise, Tara, la HAS préconise donc de traiter en priorité les plus fragiles, comprenez les résidents des EHPAD, mais aussi les professionnels de santé les plus exposés.
Oui, cette autorité indépendante, pilotée par un collège dont les membres sont nommés par le ministère de la Santé et les parlementaires, propose donc une stratégie préliminaire. D'abord, vous l'avez dit, vacciner dans les EHPAD, soit environ 750 000 seniors, plus 100 000 soignants fragiles ou travaillant dans ces établissements en étant âgés de plus de 60 ans. Dans une deuxième phase, il s'agit de vacciner les personnes âgées de plus de 75 ans encore à domicile, et puis les 65-74 ans et les professionnels de santé ayant plus de 50 ans et ou étant vulnérables. Cette population-là n'a pas été quantifiée, mais en juillet dernier, la HAS avait estimé que les professionnels de santé, tous âges confondus, étaient 1,8 million en France, plus 1 million travaillant dans le secteur médico-social, maisons de retraite, établissements pour personnes handicapées, etc. Mais là, dans cette deuxième phase, on parle des soignants de plus de 50 ans. Troisième étape, justement, vacciner les 50-65 ans ayant des facteurs de vulnérabilité, plus tous les professionnels de santé. Quatrième phase, les gens fragiles, précaires, sans domicile fixe, détenus, malades psychiatriques, qui auraient sans doute du mal à se soigner. Enfin, cinquième phase, toute la population pourrait avoir accès au vaccin, en priorisant toujours, bien sûr, les personnes vulnérables. Toute cette stratégie présuppose d'abord que les vaccins sont efficaces. La Haute Autorité de Santé ne se prononce pas là-dessus. Ensuite, elle ne dit pas si la France aura assez de doses, ni qui vaccinera les Français. En 2009, les vaccinations collectives contre la grippe H1N1 avaient été très mal vécues par les professionnels, exclus de fait. D'ailleurs, toute la campagne avait été un échec, et c'est justement cet échec que voudraient éviter aujourd'hui la HAS et le gouvernement.
Le nombre de Français concernés par des épisodes dépressifs ou anxieux a doublé entre la fin septembre et le début novembre. Stress, sommeil difficile, consommation d'alcool à la hausse, les signes de difficultés psychologiques sont nombreux, ou quand ce second confinement a beau être plus léger que le précédent, l'aspect inédit de l'épreuve a fait place à la lassitude et la morosité. Et c'est ainsi qu'une vaste étude scientifique unique en son genre lance à partir d'aujourd'hui un appel à 10 000 volontaires afin qu'ils aident à mesurer les conséquences de la crise du Covid-19 sur l'état psychique de la population. Les participants, tous majeurs, seront invités à répondre chaque mois et jusqu'en mai 2022 à un questionnaire. La cohorte d'études inclut des personnes malades, chroniques, des porteurs de handicap, des aidants, mais aussi des bien portants. Le Parlement doit valider aujourd'hui le budget 2021 de la Sécurité sociale, transformé en gouffre financier par la crise sanitaire et son impact économique. Quand la droite s'alarme d'avoir à travailler sur des chiffres déjà sous-estimés, sans savoir quand et comment les déficits seront comblés, la gauche de son côté dénonce un budget qui n'apporte qu'une réponse à court terme à la crise, et notamment celle de l'hôpital. Quoi qu'il en soit, et faute d'accord avec le Sénat, le texte viendra une dernière fois donc devant les députés, dont le vote marquera l'adoption finale au terme de 6 semaines de navette entre les deux chambres. Notons que ce texte entérine notamment la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale dédiée à la dépendance, mais dont le financement reste encore largement à trouver. Puis ce budget offre également une avancée, cette fois-ci largement saluée, en doublant la durée du congé de paternité porté de 14 à 28 jours. Une semaine après un faux départ, le procès de l'ex-président Nicolas Sarkozy pour corruption dans l'affaire dite des écoutes doit réellement débuter cet après-midi, avec une journée essentiellement consacrée à des arguties juridiques. Rappelons que l'examen
l'examen de cette affaire est tout à fait inédit, puisque jamais un ancien chef de l'État n'avait été jugé pour corruption sous la Ve République. C'est une nouvelle action en justice sans précédent qui s'apprête à être franchie aujourd'hui et qui témoigne de la prise de conscience par les tribunaux de l'urgence climatique. La Cour européenne des droits de l'homme doit annoncer dans la journée qu'elle donne suite à une requête liée au climat contre 33 pays, dont la France. Cette plainte avait été déposée en septembre dernier et s'inscrit surtout dans un mouvement d'essor du contentieux climatique à travers le monde. À ce titre, c'est également aujourd'hui que doit s'ouvrir à Londres une enquête publique pour déterminer le rôle joué par la pollution de l'air dans la mort d'une fillette de 9 ans. Décédée d'une crise d'asthme après une trentaine d'hospitalisations à cause de difficultés respiratoires, la fillette vivait près d'un axe très fréquenté de la capitale. Une affaire susceptible aujourd'hui de créer un précédent. C'est du moins l'espoir nourri par sa mère qui, depuis la disparition de sa fille, mène un combat juridique pour que la pollution atmosphérique soit reconnue comme responsable de sa mort. C'est une correspondance à Londres signée Richard Place.
La South Circular Road traverse le sud de Londres d'est en ouest. Une route très fréquentée, souvent embouteillée. Ella et sa famille habitaient à une trentaine de mètres de cet axe. Les trois dernières années de sa courte vie ont été rythmées par de fréquentes crises d'asthme. La première enquête conclut rapidement à une mort causée par une insuffisance respiratoire aiguë. Jamais la qualité de l'air de son foyer n'est mentionnée. Mais il y a 2 ans, un expert reconnu rédige un rapport détaillé qui établit un lien entre les pics de pollution atmosphérique et les crises d'Ella. Lorsqu'elle meurt le 15 février 2013, l'air de son quartier atteint des niveaux records de particules nocives et de dioxyde d'azote, typiques lorsque le trafic routier est important, en particulier avec des véhicules diesel. De nouvelles investigations sont donc lancées, sa famille sera entendue, des experts également et surtout les autorités. Leur action ou inaction pour protéger, voire améliorer la qualité de l'air, va être examinée dans le détail. La capitale anglaise est en dépassement constant des limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé.
Midi 46 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Ils sont arrivés à moto, une véritable horde sauvage d'hommes, de ceux qu'on ne désigne plus indistinctement que comme des djihadistes venus perpétrer le massacre le plus sanglant jamais commis cette année au Nigeria. Samedi dernier, au moins 110 civils, pour l'essentiel des fermiers, ont été tués puis tronçonnés dans leur rizière, non loin de la capitale de l'état du Borno, dans le nord-est du pays, épicentre de l'insurrection islamiste qui, depuis plus de 10 ans maintenant, sème une terreur sanguinaire qui a déjà fait plus de 36 000 morts et contraint à l'exil plus de 2,5 millions de personnes. En Éthiopie, 24 heures après l'annonce par le gouvernement fédéral de sa victoire militaire contre l'administration de la région dissidente du Tigré, les médecins peinent face à l'afflux de blessés. Les hôpitaux commencent à manquer de matériel. Aucun bilan précis du conflit n'est jusqu'ici disponible, pas plus qu'il n'est possible de voir des images d'ailleurs de la capitale Mekele, y compris à la télévision officielle. Nombreux sont ceux qui s'interrogent désormais sur la réaction des quelques 6 millions de Tigréens, ainsi que sur leur capacité éventuelle à continuer une résistance armée. Riposter tout de suite au risque de malmener un peu plus encore un accord sur le nucléaire iranien moribond, ou bien attendre le débat politique et vif à Téhéran sur la réponse à apporter à l'assassinat, c'était vendredi dernier, d'un éminent physicien nucléaire présenté comme le responsable du programme militaire nucléaire de la République des Mollahs et dont les funérailles se tiennent aujourd'hui. De son côté, Israël, soupçonné d'avoir commandité cet assassinat, se prépare à une vengeance de Téhéran. Et puis, cette élimination a également réveillé des craintes au sein du Hezbollah libanais. Pourquoi ? Parce que le puissant parti milice chiite, inféodé à l'Iran, est également dans le viseur d'Israël et de Washington, qui le considère comme une organisation terroriste. Les précisions à Beyrouth de notre correspondant Aurélien Colli.
Oui, le Hezbollah redoute les dernières semaines du mandat de Donald Trump et avec elle une sorte de carte blanche laissée à Israël pour frapper l'Iran ou ses supplétifs avant l'arrivée de Joe Biden au pouvoir à Washington. Le Hezbollah libanais aurait donc intensifié ses mesures de sécurité dans la banlieue sud de Beyrouth, son fief, dans l'éventualité d'une opération d'assassinat ciblé qui viserait son chef, Hassan Nasrallah, qui vit dans la clandestinité depuis 2006. Preuve de la tension et des inquiétudes générées par cette fin de mandat Trump. Selon le journal libanais L'Orient le Jour, Hassan Nasrallah aurait aussi reçu il y a quelques jours la visite secrète du général iranien chargé des opérations extérieures, le général Ismail Kahani, qui a remplacé le général Qassem Soleimani, assassiné en janvier dernier par une frappe américaine en Irak. Message délivré au Hezbollah, éviter toute action qui pourrait être considérée comme une escalade et être exploitée par Israël ou par son allié américain dans les prochaines semaines. Le responsable iranien aurait même transmis le même message aux milices chiites déployées en Syrie et en Irak. Alors au Liban, le message semble avoir été reçu puisque dans un communiqué très mesuré par rapport à ce qu'il peut produire, le Hezbollah a condamné l'assassinat du scientifique iranien. Il a appelé à des représailles, mais de la part de Téhéran, sous-entendu pas de sa part à lui et pas à partir du Liban. Le Hezbollah qui s'est aussi gardé de lancer lui-même des menaces contre Israël.
Au Brésil, le second tour des élections municipales organisées hier aura confirmé la déroute du bolsonarisme au profit des formations de centre-droit, lesquelles ont notamment emporté les deux grandes villes du pays, Rio et São Paulo. À 2 ans de la présidentielle et surtout en pleine pandémie, les Brésiliens semblent faire davantage confiance aux partis traditionnels ainsi qu'à des hommes politiques expérimentés pour gérer la crise. En revanche, ce second tour des municipales se sera terminé sur un goût amer pour le Parti des Travailleurs, la formation de l'ex-président Lula, puisque pour la première fois depuis le retour de la démocratie au Brésil en 1985, le parti de gauche n'a pas réussi à remporter une seule capitale des 26 États de la Fédération. Ils étaient quatre romans pour un seul prix Goncourt, un récit poignant sur le mariage forcé, une fresque sur le Maroc, un roman déjanté au titre intrigant et enfin une plongée dans une histoire familiale. Et il était 12h30 donc ce matin lorsque l'annonce du lauréat, exceptionnellement décalé de 3 semaines en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des librairies, a donc été faite pour la première fois en visioconférence.
Le prix Goncourt 2020 a été attribué à Hervé Letellier pour l'anomalie chez Gallimard par 8 voix contre 2 à Maël Renoir pour l'historiographe du royaume chez Grasset.
Voilà Hervé Letellier donc, qui tenait la corde en réalité pour ce Goncourt avec son livre L'anomalie. Benoît Grossin, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Outre Benoît d'être publié chez Gallimard, une maison d'édition souvent récompensée, le livre d'Hervé Letellier, bâti comme un savant jeu de construction au suspense haletant, a pour lui d'avoir déjà convaincu un large public.
Oui, donné favori par les critiques et qui connaît déjà un succès en touchant un large public. Hervé Letellier est donc récompensé avec l'anomalie et c'est une fois de plus Gallimard, la maison d'édition, qui obtient le prix littéraire le plus prestigieux pour la 39e fois. L'anomalie est un roman fantastique, avec pour point de départ un événement insensé en juin 2021 qui bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York, tous persuadés d'atterrir en mars, tous confrontés à leur double déjà à terre, du tueur à gages, à l'écrivain en quête de son œuvre, en passant par l'avocate ambitieuse, l'architecte transi d'un amour impossible. Hervé Letellier décline autant de destins romanesques confrontés à un impensable essai avec lequel ils doivent composer. Hervé Letellier sur France Culture, dans la matinale, vendredi dernier, avec les autres finalistes du Goncourt, s'est exprimé sur l'écriture de son livre, L'anomalie, et sur les destins qui le composent.
Parfois, on a beaucoup de choses à dire et un seul personnage ne suffit pas.
C'est sûr.
Et on a envie d'avoir beaucoup de personnages. En l'occurrence, j'avais un sujet qui me passionnait et que je voulais vraiment traiter, qui était la confrontation à soi. Cette confrontation à soi devait passer pour moi avec différents soi. Donc j'avais le choix de couvrir l'intégralité des âges, l'intégralité des genres, l'intégralité des sexualités, l'intégralité des couleurs de peau, de manière à montrer à chaque fois comment chacun individuellement, par rapport à son propre vécu, pouvait réagir face à une situation inattendue, voire exceptionnelle, auquel il serait confronté. Et tous ces personnages, en plus, me permettaient de traiter une chose qui allait de pair pour moi, qui était la question du genre en littérature, c'est-à-dire de quand j'avais un personnage comme un tueur, je voulais un roman noir. Quand j'avais deux jeunes mathématiciens qui tombent amoureux l'un de l'autre, je voulais un roman de ce qu'on appelle la chick lit, la littérature, voilà, pour jeunes dames. Et puis quand j'avais un roman d'introspection, voilà, je voulais un auteur qui soit dans la littérature dite blanche. Donc je pouvais ainsi adopter pour mon lecteur différents types de formes qu'adopte naturellement la littérature lorsqu'elle veut traiter un sujet et de le confondre avec mon personnage pour traiter tout ça simultanément comme des fils colorés, si vous voulez.
C'est-à-dire qu'en fait, là, vous jouez sur différents types de littérature. Alors il y a à la fois du roman psychologique, du roman d'espionnage. Je veux surtout pas divulgâcher ce livre parce que il y a quelque chose dans ce livre qu'il ne faut pas dire. Mais en tout cas, on voit que vous avez véritablement tenté d'embrasser différents types de construction littéraire avec Letellier.
Oui, Et aussi, je voulais que mes personnages s'incarnent de manière assez forte, ce qui veut dire que tous étaient dans des métiers qui étaient des métiers très différents les uns des autres. Ça allait de l'architecte en passant par la monteuse de cinéma, le tueur à gages était un métier un petit peu à part, mais c'en est un quand même quand on le fait bien, et l'avocate et le musicien. Et à chaque fois, je voulais le documenter parce qu'il me semblait que le personnage prenait du réel, s'incarnait de manière beaucoup plus forte lorsque chacun de ces métiers était très documenté. Donc j'avais ce travail simultané qui, moi, m'intéresse énormément, qui est de toujours construire une architecture autour du personnage pour que cette architecture vis-à-vis du lecteur lui permette d'être plus dense et quasiment immédiat. Ce qui permettait d'avoir ce qu'on peut presque dire des stéréotypes, parce que au fond, chaque personnage est un stéréotype. La jeune femme bovarienne...
Vous jouez avec cela.
Je joue avec ça. Je joue avec ces stéréotypes pour avoir une immédiateté.
Hervé Letellier sur France Culture vendredi, et parmi les journalistes littéraires qui ont donné de longue date leur avis sur ce livre, Frédéric Becbédé pour le Figaro Magazine le présente comme un patch-turner efficace, une aventure populaire, un exercice de style comparable à la vie mode d'emploi de Georges Perec. Pour Hervé Letellier, la littérature est avant tout une histoire de jeu. La contrainte littéraire est pour lui un terrain d'expérimentation. La structure émancipe, la règle permet le jeu. Hervé Letellier, récompensé déjà par le prix du roman d'amour en 2007, fait partie maintenant du palmarès prestigieux des Goncourt. Auteur de romans, mais aussi de poésie, de nouvelles, d'essais, l'écrivain âgé de 63 ans, membre de l'Oulipo, ancien pilier des Papous dans la tête sur notre antenne, a déjà publié une trentaine d'ouvrages et participé aussi à l'écriture de pièces de théâtre. Hervé Letellier a obtenu 8 voix contre 2 pour l'historiographe du royaume de Maël Renoir. Samedi, le New York Times dénonçait dans une enquête le jeu trouble des jurys littéraires français où, selon le quotidien, la qualité littéraire passe après des conflits d'intérêts flagrants et des intrigues difficilement lisibles pour le grand public, même si, selon le journal qui avait publié des révélations sur Gabriel Matzneff, le Goncourt est moins directement visé que le Renaudot.
Merci Benoît Grossin. Et avec nous en ligne à présent pour commenter ce prix, le prix Goncourt 2015 pour La Boussole, publié chez Actes Sud, mais aussi, et bien entendu, le nouveau producteur depuis la rentrée de l'émission La Salle des Machines, tous les dimanches sur France Culture à 17h, Mathias Hénard, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'était là aussi votre favori, ou du moins, comment est-ce que vous interprétez ce choix de l'Académie du Goncourt ?
Moi, je n'avais pas de favori, vous savez. Mais nous avons reçu Hervé Letellier dans La Salle des Machines il y a quelques semaines, et je recevrai aussi Maël Renoir. Donc, Letellier, c'est la première fois qu'un membre de l'Oulipo gagne le prix Goncourt, ce qui est très bien, parce que Georges Perec avait eu le prix Médicis. Et donc, aussi, derrière Hervé Letellier, c'est un peu tout l'Oulipo qui est récompensé par ce roman qui est extraordinaire, parce que justement il est extrêmement à la fois un roman de genre, un suspense, d'anticipation, très grand public, mais en même temps un roman, et comme il l'a très bien expliqué dans La Salle des Machines, extrêmement oulipien, plein de contraintes cachées, un roman qu'il décrit lui-même comme étant dans une forme de Scooby-Doo, et beaucoup de choses très surprenantes, ce qui permettent justement de toucher à la fois un public très populaire et en même temps les passionnés de la littérature à contrainte. Et je pense que c'est ça qui a aussi séduit le jury l'Académie Goncourt et le jury du prix Goncourt.
On l'a dit, cette année, la cérémonie a pris une toute autre tournure que d'habitude. Covid oblige, pour la première fois de l'histoire, le prix n'a pas été remis dans le traditionnel restaurant du centre de la capitale. Comment est-ce que vous vivez ce Goncourt si particulier en temps de Covid ?
C'est vrai que je pense à Hervé Letellier et je me dis que il va échapper à la cohue des flashs et des interviews sur les marches de Drouan. Je me rappelle de la difficulté qu'il y avait même à rejoindre le restaurant, tellement il y avait de monde sur la petite place, la petite esplanade du centre de Paris, pour ensuite arriver dans cette salle à manger des frères Goncourt, ou cette immense table autour de laquelle se trouvait toute l'Académie. Et cette salle était remplie de journalistes. Et c'était un moment d'une confusion assez extraordinaire. Et je me dis que là, Hervé Letellier est chez lui, sans doute une bouteille de champagne à la main, mais
oui, parce que
néanmoins c'est une expérience extrêmement différente. Mais je pense que ça l'était aussi pour les délibérations, parce que d'après ce que j'ai vu, c'est fait entièrement par visioconférence, et donc chacun était chez soi, donc pour eux-mêmes, pour les membres du jury, donc de cette Académie Goncourt, ça devait être quelque chose de très particulier. Oui, je pense que c'est la première fois que le prix Goncourt ne se remet pas, non seulement n'est pas remis au restaurant Drouhin, mais que les délibérations n'y ont pas lieu.
Oui, Mathias Sénard, en tout cas c'était un moment exceptionnel que vous avez vécu comme lauréat du Goncourt à l'époque. Hervé Letellier ne vivra pas physiquement, en tout cas de la même manière que vous, cette année. Roman de l'inattendu, disait-il à l'instant, il était effectivement le grand favori de ce Goncourt 2020 et fébrile hein, depuis un mois, puisque l'annonce du report du prix a dû tempérer les ardeurs de le ou la gagnante qu'on ne connaissait pas à l'époque. Voilà, juste vous dire aussi que le Renaudot 2020 a été attribué à Marie-Hélène Lafon, Mathias Sénard, que vous avez reçu pour Histoire du fils, et dans la catégorie Essai du Renaudot. Oui, c'est la Canadienne Dominique Fortier qui vient d'obtenir le prix Renaudot Essai. Merci à vous, Mathias Sénard, d'être venu réagir dans le journal de Thomas Cluzel à l'annonce de ce prix Goncourt 2020, dont je rappelle le nom, Hervé Letellier pour L'Anomalie, avec ce roman qui a paru à la rentrée chez Gallimard et dont on vous reparle dans quelques instants avec mon invité, la sociologue Gisèle Sapiro. Un mot du temps, Thomas Cluzel.
Oui, généralement sec cet après-midi. Une perturbation pluvieuse arrivera toutefois par la mer du Nord en fin de journée. Puis ce sera le premier épisode hivernal notable sur le Grand Est. 4 départements, les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et la Meuse ont été placés en vigilance orange, neige et verglas à partir de 18h. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommé. À 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Et à 13h, bientôt passé de 2 minutes, nous vous retrouvons Olivia Gesbert pour la Grande Table, deuxième partie.
Merci Thomas Cluzel et on poursuit cette discussion autour des prix littéraires et de l'importance de la littérature dans son lien aussi avec l'engagement, avec la politique, avec le statut de l'auteur. Où en est-on aujourd'hui? C'est notre invitée, la sociologue Gisèle Sapiro, qui est avec nous jusqu'à 13h30. Tranché et tranchant dans l'actualité des idées aujourd'hui. C'est un débat récurrent que l'on va aborder. Elle se saisit justement de ce débat et de cette question sans la détourner dans un livre au titre On ne peut plus clair. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? Un livre qui paraît au seuil. Peut-on lire Voyage au bout de la nuit en faisant fi des écrits antisémites de Céline? Faut-il sortir avec des guerres des programmes scolaires? Jeter Wagner aux oubliettes? Peut-on adorer le film J'accuse ou devrait-on boycotter sa sortie parce que son réalisateur est Roman Polanski? Yoga a-t-il été sorti des listes du Goncourt car il s'inspirait trop de la vie des autres et de celle de son auteur, qu'il n'était pas assez fictionnel? Autant de questions qu'on peut aborder aujourd'hui avec notre invitée, la sociologue, je vous le disais, Gisèle Sapiro, directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de la vie intellectuelle, de l'édition et des rapports entre littérature et politique. Cette héritière revendiquée de Bourdieu vient par ailleurs de lui consacrer un dictionnaire international, le dictionnaire international Bourdieu aux éditions du CNRS. Bonjour Gisèle Sapiro.
Bonjour.
Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Tout d'abord, une réaction avec vous sur ce prix Goncourt 2020 enfin annoncé. On a donc le lauréat Hervé Letellier pour ce roman L'Anomalie, qui a paru à la rentrée chez Gallimard. Alors on est content ici à France Culture parce que c'est un peu